Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 11 octobre 2018. Trois militaires maliens tués, quatre blessés la nuit dernière dans le centre du Mali. 81 prisonniers, dont une trentaine d'opposants, ont été graciés en Guinée équatoriale. Arrestation au Burundi de trois employés du Comité international de secours pour violation de l'interdiction frappant les ONG. Ouverture du 17e sommet de la francophonie en Arménie, où la Rwandaise Louise Mushikiwabo sera nommée secrétaire générale de l'OIF. Le patriarcat de Constantinople reconnaît une église orthodoxe indépendante de la tutelle de Moscou en Ukraine. La Minute Écho, les sports, ce sera juste après le journal. Au Cameroun, les avocats des militants anglophones ont exigé leur libération immédiate et qualifient leur arrestation d'illégale. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Un collectif d'avocats camerounais a exigé jeudi la libération immédiate du leader anglophone Sisiku Julius Ayuk Tabe et de 9 autres militants, tous arrêtés au Nigeria, puis extradés au Cameroun en janvier dernier. Les avocats affirment qu'ils ont été arrêtés illégalement et doivent donc être relâchés. Les militants anglophones sont détenus au siège de la gendarmerie à Yaoundé. Hier, Donatus Ndjong, maire de Kumbo, une commune de la région anglophone du Nord-Ouest, a été enlevé. Son parti, le SDF, principal parti d'opposition, a confirmé l'enlèvement, pointant du doigt un des groupes séparatistes armés. Le pays attend les résultats de la présidentielle du 7 octobre où la participation a été faible en zone anglophone. Lundi, Maurice Kamto, l'un des principaux opposants au président sortant Paul Biya, a revendiqué la victoire, ce que le gouvernement a aussitôt qualifié d'illégal. Les États-Unis et l'Union africaine ont appelé toutes les parties à attendre la proclamation officielle des résultats et utiliser les moyens légaux pour contester.
Le président de Guinée équatoriale a gracié 81 prisonniers, dont une trentaine d'opposants condamnés à plus de 30 ans de prison pour sédition. Nous concédons la grâce aux personnes condamnées ou qui purgent leur peine pour délits contre le gouvernement, l'ordre public et les autorités constituées, indique le décret. Parmi les prisonniers graciés par Teodoro Obiang Nguema figure Jesus Mitogo, le seul député de l'opposition. Trois militaires maliens ont été tués et quatre blessés la nuit dernière dans le centre du Mali. Leur véhicule a sauté sur une mine alors qu'ils venaient de Boulkessi, à la frontière avec le Burkina Faso. La mine a explosé à son passage entre Djungani et Koro. Trois employés du Comité international de secours ont été arrêtés mercredi dans l'ouest du Burundi pour avoir violé l'interdiction de travailler frappant les ONG étrangères depuis le 1er octobre. Hier à 14h30, la police de Muyinga a surpris trois agents de l'IRC au travail alors qu'on a interdit le travail des ONG, a indiqué le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkourikiye. Le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises de Laurent Boussibaruta, un ancien préfet rwandais poursuivi pour son implication présumée dans le génocide de 1994 au Rwanda. Il accuse Monsieur Boussibaruta d'avoir ordonné des actes de génocide et de crimes contre l'humanité entre avril et juillet 1994. La police zimbabwéenne a arrêté des dirigeants syndicaux qui appelaient à une journée de manifestation pour dénoncer l'aggravation de la crise économique. Je confirme l'arrestation du président de la Fédération des syndicats du Zimbabwe, Peter Mutasa, et de son secrétaire général Japhet Moyo à leur bureau, a déclaré le porte-parole des avocats zimbabwéens des droits de l'homme, Kumbirai Mafunda. Des dizaines d'autres syndicalistes ont également été interpellés à Harare, Masvingo et Mutare, a-t-il ajouté. L'homme d'affaires tanzanien Mohamed Devji a été enlevé par des hommes armés à Dar es Salaam, ont indiqué les autorités administratives et policières. Dirigeant du groupe METL, spécialisé dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'assurance et des transports, le milliardaire a été kidnappé quand il entrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique, selon les autorités. En Égypte, 17 personnes ont été condamnées à mort ce jeudi par un tribunal militaire pour des attentats contre des églises. Ces attaques avaient fait 74 morts en 2016 et 2017. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
En plus de ces peines capitales, 19 autres ont été condamnés à la prison à perpétuité et 10 autres de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Les 46 autres ont été reconnus coupables du meurtre de 74 personnes et de tentatives de meurtre. Les poursuites ont été abandonnées contre deux personnes décédées pendant la procédure. Peu après ce verdict, Amnesty International a publié un communiqué disant qu'il n'y a aucune justification aux attentats ayant visé les églises coptes, mais prononcé une peine de mort collective après un procès militaire injuste ne dissuadera pas les auteurs de futurs attentats. Toutes ces attaques depuis 2016 au Caire et dans deux autres villes ont été revendiquées par le groupe État islamique. Par la suite, le président Abdel Fattah al-Sissi a instauré l'état d'urgence qui a été prolongé à plusieurs reprises.
À l'occasion de la Journée internationale des filles, Amnesty International appelle les autorités du Burkina Faso à protéger les filles contre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, citant le cas récent de 48 filles atteintes de complications. Le directeur de l'ONG au Burkina Faso, Yves Boukari Traoré, demande au gouvernement de faire traduire en justice les auteurs. La pratique des MGF est illégale dans le pays depuis 1996 et passible de peine jusqu'à 21 ans de prison et jusqu'à 3 millions de francs CFA d'amende. Elle est une cause majeure de décès et d'invalidité chez les femmes et les filles au Burkina Faso, qui a également un taux élevé de mariage de filles mineures, soit 51% de la population féminine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'ouverture du 17e sommet de la francophonie en Arménie, le président français Emmanuel Macron a appelé à réinventer l'organisation qui doit être, selon lui, un lieu de reconquête des valeurs comme les droits humains. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Emmanuel Macron a déclaré que la francophonie doit davantage promouvoir la langue française, en particulier dans les échanges et les institutions internationales. On doit pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue. L'anglais est devenu une langue de consommation, a laissé entendre M. Macron. Il a souligné que le premier combat de la francophonie, c'est la jeunesse, particulièrement en Afrique. Il a souhaité une révision des modalités d'adhésion à l'OIF. L'Arabie saoudite a retiré sa demande pour être membre observateur. Par contre, la Gambie, l'Irlande, la Louisiane et Malte ont été acceptées sans droit de vote. Le président français a appelé à lutter contre l'oppression faite aux femmes et le recul de l'éducation des jeunes filles. L'avenir de l'Afrique sera féministe, a lancé Emmanuel Macron, alors que le sommet devrait nommer la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'organisation en remplacement de la Canadienne Michaëlle Jean.
Dans un communiqué rendu public, le directeur de l'Agence américaine pour les médias internationaux, John Lansing, se dit profondément troublé par la disparition du journaliste saoudien, contributeur du Washington Post, Jamal Khashoggi, et se joint à l'appel général pour obtenir des informations sur ses déplacements. Personne ne devrait être autorisé à faire taire les journalistes. USAGM, à l'instar de Khashoggi, comprend qu'un monde informé est un monde plus sûr. Et c'est un préalable pour que la démocratie fonctionne, conclut M. Lansing. L'Église orthodoxe russe a dénoncé un schisme après la décision du patriarcat de Constantinople de reconnaître une église indépendante de la tutelle religieuse de Moscou en Ukraine. Le patriarcat de Constantinople a pris aujourd'hui une décision catastrophique, en premier lieu pour lui-même et en général pour l'ensemble du monde orthodoxe, a déclaré le porte-parole du patriarche russe Kirill Alexandre Volkov. Scène de désolation dans le nord-ouest de la Floride après le passage de l'ouragan Michael. Les vents extrêmement violents ont causé la mort d'au moins deux personnes. Les détails avec Nani Talani.
L'étendue des dégâts n'est pas encore bien déterminée, tout comme le bilan des victimes. Pour l'instant, les autorités ont confirmé deux décès. En Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée lorsque les débris d'un garage sont tombés sur sa maison. En Floride, une personne a été tuée par un arbre déraciné. Le gouverneur de la Floride, Reid Scott, n'exclut pas une révision du bilan à la hausse après ce qu'il qualifie de catastrophe impensable. Les rues de Panama City, station balnéaire frappées en première ligne, sont jonchées de branches d'arbres, toitures arrachées, morceaux de verre. Certaines maisons en bois sont déchiquetées. Des milliers de soldats et de secouristes sont engagés dans une vaste opération de recherche et de sauvetage dans les décombres des maisons et dans les zones inondées peu accessibles. L'ouragan Michael, qui a été déclassé en tempête tropicale, touchera la Caroline du Nord et le sud de la Virginie avant d'aller s'éteindre demain dans l'Atlantique.
Une passagère d'un vol Bamako-Paris a été interceptée en possession de 8 valises contenant 581 cartouches de cigarettes. Le 25 septembre, à l'aéroport de Paris-Roissy, a annoncé la douane française. Le nombre de cartouches saisies correspond à une valeur marchande de plus de 53 000 dollars. L'international russe Pavel Mamaev et l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg Alexander Kokorin ont été placés en détention provisoire pour 2 mois après les agressions dont ils sont accusés. Un tribunal russe a ordonné la détention des deux footballeurs dans l'attente de leur procès pour hooliganisme, crime pour lequel ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire prévoit d'investir plus de 3 800 milliards de francs CFA dans l'éducation sur la période 2018-2020. Le président Alassane Ouattara, qui a fait cette annonce, estime que cet investissement permettra de relever les défis tels que l'amélioration de la qualité des apprentissages, la qualité des enseignements, la question de l'adéquation formation-emploi. Alassane Ouattara évoque également l'utilisation du numérique dans les universités et la réforme des curricula afin d'amener les universités à former des citoyens engagés pour la transformation de la société. Des entreprises autrichiennes, japonaises et françaises sont en lice pour la construction d'un pont au Kenya d'une valeur de 200 millions de dollars. Ce deuxième pont de Niali est un ouvrage de 6 voies entre Mombasa et l'île qui lui est adjacente. Ce projet est le 5e annoncé au Kenya dans le domaine des infrastructures de transport depuis le début de l'année 2018. Le plus important est celui de la construction d'une zone économique spéciale à 3,6 milliards de dollars. Au terme du troisième trimestre 2018, la valeur des fusions-acquisitions impliquant des entreprises basées en Afrique subsaharienne a été de 9,2 milliards de dollars. C'est le niveau le plus bas depuis 2007. Il y a un repli de 64% de la valeur des fusions-acquisitions dans la sous-région. Si l'Afrique subsaharienne a moins attiré les investisseurs, elle a été plus à l'offensive. La valeur des fusions ou des acquisitions menées par les entreprises de la sous-région a atteint 4 milliards de dollars en légère hausse de 5%.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Les qualifications pour la CAN 2019.
Oui, les Diables Rouges du Congo dominent à domicile 3-1 le Libéria. Ndokit, Ibarra et Onyang sont les buteurs. Une victoire importante qui relance le Congo-Brazzaville avant le match RDC-Zimbabwe. Hier, les Chipolopolo ont enregistré leur premier succès dans ces éliminatoires face à la Guinée-Bissau. 2-1, les buteurs Stopila Sunzu et Justin Chonga ont inscrit les buts de cette victoire de la Zambie. Les Licaons Bissau-Guinéens ont réagi trop tard. Dans ce groupe, le Mozambique, la Zambie et la Guinée-Bissau sont désormais à égalité. L'Éthiopie et le Kenya avaient fait match nul un peu plus tôt dans le groupe F.
Et demain, d'autres matchs ?
Djamel Belmadi et les Fennec algériens affrontent le Bénin. Ce sera vendredi à Blida. Le Cameroun accueille le Malawi. L'Angola face à la Mauritanie. La Guinée contre le Rwanda. Le Gabon face au Soudan du Sud. À Bouaké, la Côte d'Ivoire contre la Centrafrique. Togo, Gambie, le Burundi en déplacement au Mali. L'Égypte qui accueille Iswatini, l'ex-Swaziland. Et puis le Cap-Vert face à la Tanzanie.
La Ligue des Nations reprend ses droits en Europe.
À suivre notamment le Portugal sans Cristiano Ronaldo face à la Pologne et du côté de la Russie, l'Azbornaïa qui affronte la Suède. L'Écosse se déplace en Israël, le Monténégro face à la Serbie, la Lituanie contre la Roumanie, les îles Féroé face à l'Azerbaïdjan et le Kosovo face à Malte.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Mali, le gouvernement a ordonné la réquisition des magistrats en grève illimitée. Cette décision lui permet d'entreprendre la gestion des juridictions malgré la grève. Les grévistes rétorquent que cela ne change en rien leurs revendications et qu'ils vont répondre de manière syndicale et juridique à cette réquisition. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
La grève illimitée des magistrats a poussé le gouvernement à prendre un décret de réquisition. Diarra Arakitala, ministre de la fonction publique et des relations avec les institutions.
Décrète article 1er. Les magistrats occupant les emplois dont la liste est jointe sont réquisitionnés d'office, conformément aux articles 2 et 6 de la loi 8748 ANRM du 10 août 1987 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens. Article 2. Les chefs de juridiction, les procureurs généraux et les procureurs de la République sont également tenus de réquisitionner tout magistrat sous leur autorité pour la tenue des audiences ou la délivrance des actes qui requièrent urgence et célérité.
Dramane Diarra, procureur près le tribunal de grande instance de la communicate.
La loi 87-048 qui, en cas d'état d'exception, permet à l'administration de requérir des services ou de requérir personnes ou même des biens pendant un temps ou de façon permanente. Ça aussi, c'est encadré par la loi. La réquisition n'est pas hors la loi. Les gens peuvent vraiment épiloguer là-dessus parce que vous savez, chaque fois qu'il est question de quelque chose pour la première fois, il y a beaucoup de salive et d'encre. Sinon, c'est bien ancré, c'est dans la loi.
Le porte-parole des magistrats grévistes se dit serein. Alou Badra Nanakassé, président par intérim d'ISAM.
Je crois qu'on ne devait pas arriver à cette extrémité qui est une première en République du Mali. La loi portant sur la réquisition est bien claire. Nous sommes des juristes, nous savons faire la lecture de cette loi. Nous ne sommes ni impressionnés par la mesure et nous ne serons pas divertis par quoi que ce soit. Nous nous assumerons jusqu'au bout de la façon la plus légale et de la façon la plus ferme. Et rien ne saurait ébranler notre dynamisme.
Certains juristes commentent cette décision qui est attaquée aujourd'hui par les magistrats grévistes. Cheikh Mohamed Chérif Kone de l'Union internationale des magistrats.
Le recours du pouvoir exécutif à la réquisition des magistrats en tant que fonctionnaire de l'État au sens de l'article 77 du Code pénal, certes encore inédit, est loin d'être une violation de la loi ou une quelconque forme d'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, lequel n'est incarné ou exercé par des syndicats de magistrats. Dans la situation en présence, ce recours à la réquisition imposé à l'exécutif apparaît comme la traduction concrète du devoir incombant à celui-ci d'assumer les responsabilités qui sont les siennes dans la restauration de l'ordre public républicain.
Pour les Maliens moyens, il est temps que l'État trouve une solution définitive à cette grève illimitée.
Moi, je propose que le gouvernement de la République doit tout faire pour régler ces problèmes-là. Mettre en contact, rentrer toujours en contact avec les grévistes, discuter avec eux, dialoguer avec eux pour faire une sortie de crise.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24. Cap sur le Sénégal, où près de 7000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année. Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer. Communément appelé Octobre Rose, c'est l'occasion pour les autorités sanitaires et associations de poser des actes concrets. Incontournable dans ce combat, la Ligue sénégalaise contre le cancer compte subventionner plus de 2000 mammographies à Dakar et dans plusieurs régions. Voici le reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Découvert tardivement, le coût du traitement du cancer du sein est de 2 millions de francs CFA en moyenne, une somme exorbitante pour la majorité des femmes sénégalaises. Pour éviter à ces dernières la cherté de ce traitement, la LISCA leur permet de se faire dépister très tôt. Le docteur Fatma Guenoun est la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer.
Le cancer du sein, c'est le premier cancer au Sénégal. C'est un cancer qui se dépiste que par un examen mammographique qui est assez coûteux au Sénégal, entre 60 et 80 000 dans le privé. Et grâce à nos partenaires radiologues qui ont réduit le coût à 30 000 francs, on s'est dit que 30 000 c'est assez coûteux pour la femme qui veut se dépister. Et la femme ne payera que 15 000 francs et la LISCA supporte la moitié, le reste.
Pour la LISCA, l'implication des populations est à ce jour l'une des plus grandes avancées dans la lutte contre le cancer. Bénévole à la LISCA, Maïmouna Dembélé indique que la stigmatisation est bien surmontée par les femmes.
C'est une excellente initiative de la LISCA et c'est pour pouvoir avoir le maximum de femmes parce qu'en général, le cancer est quand même un sujet tabou dans nos sociétés ouest africaines. Les femmes, même pour les sortir de la maison, c'est assez compliqué. Et donc, quand on fait une journée de dépistage où elles savent qu'elles ne vont pas sortir un franc, en général, elles adhèrent.
Encouragée par les faveurs qu'offre la Ligue sénégalaise contre le cancer et consciente des dangers du cancer du sein, les femmes viennent de plus en plus se faire dépister. Sohna nous confie que c'est cela qui l'a poussée à venir.
Les conséquences du cancer du sein sont nombreuses. C'est pourquoi nous avons sauté sur l'occasion pour nous faire dépister, car c'est plus sûr. En plus, nous ne sommes pas toujours en mesure d'aller dans les hôpitaux car c'est trop cher. La consultation coûte entre 30 et 60 000 francs CFA. Donc ce genre d'initiative ne peut que nous motiver et nous pousser à nous dépister.
Pour les cas suspects, des bons de consultation sont offerts pour un suivi médical. Au-delà du dépistage, la prise en charge psychologique des cas positifs est d'une importance capitale, comme l'affirme le professeur Momodou Diop, chirurgien cancérologue et directeur de l'Institut du cancer.
Il faut faire comprendre aux femmes qui ont souvent peur de se faire dépister que cela peut se guérir, surtout quand le diagnostic est fait tôt. Et parfois, le traitement il peut être très invalidant. Il peut comporter, par exemple, l'amputation du sein. Même la chimiothérapie, ça demande une certaine approche. Et c'est pourquoi les psychologues ont un rôle extrêmement important.
Cette année, près de 3000 femmes vont bénéficier du dépistage gratuit et plus de 2000 mammographies seront subventionnées par la LISCA. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
56 journalistes ont été tués dans le cadre de leur activité professionnelle durant les 9 premiers mois de l'année, selon un rapport de Reporters sans frontières. À savoir que 2017 a été l'année la moins meurtrière depuis 14 ans pour la profession. Alors comment expliquer ce regain de violence contre les journalistes ? Pour un élément de réponse, Nani Talani a joint Pauline Hadès-Mével, responsable de la zone Union européenne et Balkans pour Reporters sans frontières.
Nous avons publié un rapport et nous publierons un deuxième rapport en fin d'année. En fait, ce qui nous a alerté à Reporters sans frontières, c'est les chiffres extrêmement élevés de journalistes qui ont été tués dans le monde depuis le début de l'année 2018. On s'était enorgueilli que l'année 2017 soit la moins meurtrière depuis 14 ans pour la profession. Et là, 2018 inverse la tendance avec déjà 56 journalistes tués en raison de leurs activités professionnelles. Donc des chiffres qui sont dramatiques et qui montrent qu'il est urgent d'agir.
Qu'est-ce qui explique la montée de cette violence à l'égard des journalistes ?
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la montée de la violence contre les journalistes. Ce qui est certain, c'est que très très souvent aujourd'hui, les journalistes ne sont plus seulement des victimes collatérales, mais sont des cibles. Il faut réduire au silence des journalistes qui dérangent. Dans les zones de conflit également sont le lieu de nombreuses disparitions. Mais ce qui est clair, c'est que les chiffres sont actuellement mauvais et dramatique parce qu'on doit déplorer des bilans très graves, par exemple en Afghanistan, avec 13 journalistes tués pendant le courant de l'année 2018, d'autres attentats dans lesquels les journalistes ont perdu la vie.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger les journalistes qui ne font que leur travail ?
Reporters sans frontières a lancé une initiative il y a près de 3 ans et défend cette initiative qu'elle a portée à l'ONU. Elle souhaite la création d'un poste de représentant spécial pour la sécurité des journalistes auprès du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'était des échanges également qui avaient eu lieu avec Ban Ki-moon. Donc, il faut qu'on amène à une prise de conscience sur la sécurité des journalistes, qu'on arrive à faire en sorte que ça devienne une question qui est centrale et que les autorités internationales, que les autorités locales, les pays où les journalistes sont en danger, s'en saisissent pour mettre en œuvre des solutions et pour protéger les journalistes.
Et qu'en est-il de la nomination de ce représentant spécial? Est-ce qu'on est prêt de voir cette personne ou pas?
Les échanges sont de plus en plus fréquents et nous avançons avec les Nations Unies sur cette question. Il est difficile aujourd'hui de faire des projections, mais ce qui est certain, c'est que notre demande est prise en considération et que au cours des 2-3 dernières années, nous avons vraiment avancé pour que notre initiative soit soutenue et elle est très bien accueillie.
C'était Pauline Hadès-Mével, responsable de la zone Union européenne et Balkans pour Reporters sans frontières.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ouverture du 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, où Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, doit être nommée secrétaire générale de l'OIF. La francophonie soutient la démocratie, la paix et les droits humains et renforce la coopération. L'Afrique est le principal vivier de locuteurs francophones dans le monde. Pour un éclairage sur la raison d'être de l'organisation, Eric Manirakiza a joint en Normandie l'ancien fonctionnaire de l'UNESCO, Athanase Karayenga.
Mais il faut poser la question, à quoi sert une langue dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent ? Dans n'importe quelle condition de vie des gens et des citoyens. Une langue, c'est un outil de communication, c'est un outil de culture, c'est un outil d'éducation, c'est un outil pour voyager, c'est un outil pour se cultiver. Une langue, c'est la vie.
Et au-delà de la diversité culturelle et linguistique,
toutes ces langues suivent les dynamiques de l'histoire, les dynamiques de l'économie, suivent les dynamiques de la science.
Et la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'elle gagne à part parler français?
Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le chinois? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre l'arabe? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le russe? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le swahili? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre même le bambara, qui est le bamanan, qui est une langue du Mali? On gagne toujours quand on apprend une langue, un patrimoine commun de l'humanité que nous devons absolument préserver parce que c'est un enrichissement extraordinaire.
Un pont pour l'intégration économique?
Tout à fait. Toutes les zones régionales, par exemple l'Afrique de l'Ouest qui est francophone majoritairement, on voit bien que le Nigeria, qui est pourtant un grand pays, un grand peuple, qui parle plusieurs langues africaines, mais aussi l'anglais comme langue hérité de la colonisation, les Nigérians font beaucoup d'efforts pour apprendre le français afin de pouvoir commercer avec la zone économique de la CEDEAO. Le Ghana, c'est pareil. On le voit aussi de l'autre côté, de l'Afrique de l'Est.
Le choix de Louise Mushikiwabo, l'actuelle ministre rwandaise des Affaires étrangères, n'est pas surprenant?
Oui et non. Donc c'est une femme, c'est une dame qui est tout à fait au cœur de cette dynamique extrêmement positive des langues, des influences qui nous portent, qui nous enrichissent, qui mettent les Africains maintenant en contact avec le monde entier. Encore une fois, la reine d'Angleterre parle français. Ne rétrécissons pas de cette dynamique extraordinaire de la circulation des idées, des hommes, et de la poésie, de la musique, de la culture. Un duel artificiel entre l'anglais et le français, appliqué surtout dans le cas du Rwanda.
Athanase Karayenga est ancien fonctionnaire de l'UNESCO. Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Bienvenue à bord.